France Inter, le 18-20.
Il y a donc 50 ans, Pompidou arrivait au pouvoir. Et outre la date anniversaire, on adore les anniversaires en France, dans cette commémoration qui ressemblerait presque à une célébration, il y a un très lourd parfum de nostalgie. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les années Pompidou, avec cette France clope au bec qui partait en vacances avec une 204 Peugeot Break, qui terminait le périph parisien sans se préoccuper des particules fines, une France qui mettait encore de la moquette au mur, mais une France industrielle aussi qui créait de l'emploi, une France d'avant le choc pétrolier, une France d'avant le chômage de masse, une France où l'ascenseur social fonctionnait toujours et fonctionnait surtout sans faute. S'y référer aujourd'hui, c'est peut-être se référer à une France plus heureuse, à une France qui aspirait encore à l'ordre au lendemain de mai 68. Pompidou, c'est une valeur refuge, comme l'a dit joliment Libération ce matin. Les politiques qui s'en réclament sont à droit touchés. Emmanuel Macron, un peu comme si on parlait d'une quête de modèle. Les comparaisons d'ailleurs sont assez marrantes à faire avec le président actuel, Rothschild, tous les deux comme début de carrière, un même appétit de culture classique, on va dire. Mais une France sur la défensive face à Emmanuel Macron en ce moment, en tout cas, alors qu'elle se laissait porter dans la confiance sous Pompidou, ou en tout cas, c'est ce qu'on en retient. Et au fond, c'est peut-être une France fantasmée dont on parle, une sorte de mythologie, un président aimé au-dessus de 50%, même après 50 pouvoirs quand il est mort, plus de 50%. Depuis quand est-ce arrivé depuis ? Soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Stéphane, c'est vous qui entamez ce téléphone sonne. Soyez le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, moi, je voulais un peu témoigner de cette période que j'ai vue avec mes yeux d'ado, puisque j'avais 11 ans en 69. C'est une période où il y avait quand même pratiquement le plein emploi. J'ai un ami qui était ouvrier, il me disait, quand on n'était pas content dans l'usine, on allait demander notre compte, et la semaine d'après, on retrouvait du boulot dans l'usine d'en face. La vie matérielle, je pense, aussi était plus simple. C'est ce que vous disiez avec l'histoire de partir en vacances avec la 204. On partait en vacances à 4 ou 5 dans une voiture. On avait une valise, on avait deux tenues, on avait les bouées, un ballon pour jouer sur la plage. Et puis, voilà, il n'y avait pas le monospace avec le lit parapluie. Enfin, tout ce que vous savez qu'ont les parents d'aujourd'hui. Je ne veux pas les dénigrer. Hein. C'est un changement d'époque. Les choses ne sont plus pareilles. Et aussi, j'ai l'impression que tout était plus fluide, plus simple. J'idéalise peut-être les choses avec le regard que j'avais à cet âge-là, mais les problématiques n'étaient pas les mêmes. Et par exemple, l'obsolescence programmée, ça n'existait pas. Donc on achetait une machine à laver, bon ben voilà,
attends,
la machine à laver.
C'est qu'on n'avait pas de portable, Stéphane. Sinon on l'aurait inventé, l'obsolescence programmée, non ?
Peut-être. Et peut-être, mais j'ai l'impression que... Finalement, les gens se posaient moins de questions, même si la vie n'était pas facile tous les jours non plus. Faut pas non plus fantasmer les choses. Mais moi, j'ai l'impression qu'on allait un peu, à l'essentiel. On voyait les vrais problèmes. On n'était pas dans ce qu'on a aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple. Je sais pas si on peut citer une marque, c'est Prix Unique, elle a disparu, mais quand vous alliez faire vos courses au Prix Unique de là où vous habitiez, il n'y avait pas 36 marques de biscuits ou de moutarde ou de jambon, vous en aviez deux, quoi.
Et s'il n'y en avait eu qu'une, ça aurait été tellement plus simple encore. Merci beaucoup Stéphane, merci pour ce témoignage de vos 11 ans, donc à l'époque de Pompidou. Ça nous permet de démarrer cette discussion ensemble qui se poursuivra jusqu'à 20h avec Éric Roussel. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Roussel, vous êtes journaliste politologue, vous êtes biographe, vous avez notamment écrit, c'était en 2004, une bio de Georges Pompidou chez Lattès. Et bonsoir Jean Garrigue.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous avez écrit La République incarnée chez Perrin, c'est votre dernier ouvrage, il a été publié en janvier 2019. Moi je trouve ça formidable Éric Roussel, ce témoignage de Stéphane. Peut-être que si on avait fait une espèce de revival des années 60, on aurait eu le même genre de témoignage de quelqu'un qui nous racontait ses 11 ans de la même manière en fond. Est-ce qu'il y a quelque chose de fantasmé autour de cette parenthèse pompidolienne, en fait?
C'est pas fantasmé, ça correspond quand même à quelque chose, si vous voulez, en ce sens que la fin de ce qu'on appelait les Trente Glorieuses a pris fin avec le premier choc pétrolier, donc symboliquement, d'ailleurs, quelques mois avant la mort de Georges Pompidou. Donc c'est vrai que il a fait certains choix qui ont pu produire des effets, puisqu'à l'époque, la Grande-Bretagne, qui était dans une situation un peu, enfin, le même contexte international, était dans un état tout à fait différent.
C'est intéressant d'ailleurs, hein, parce que la Grande-Bretagne était en train de rentrer, elle était en train de sortir. Donc,
oui, mais enfin, surtout, elle était en très mauvais état. Donc voilà, je pense que maintenant, c'est sûr qu'avec le temps... Alors je pense que c'est ça, au fond, ce qui a changé, ce qui apparaissait très bien dans ce témoignage là qu'on vient d'entendre, c'est que ce qui a changé, c'est l'horizon, finalement. Il y avait un horizon, et aujourd'hui, cet horizon apparaît dans le brouillard.
C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'ascenseur social sûr et certain, à ce moment-là, qui aujourd'hui n'existe plus. Jean Garrigue, comment vous voyez ça?
C'était une société quasiment sans chômage, une société de croissance, à 5% de croissance par an. Faut pas oublier quand même que jusqu'avant que Georges Pompidou soit élu, il y a eu la plus grande crise sociale de l'après Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la crise de mai 68. On a toujours tendance à enjoliver un petit peu le passé. Les gens des années 30 pensaient que ce qui s'était passé dans les années 1900, c'était la belle époque.
Exactement.
Alors que c'est une époque de souffrance sociale. Et là, vous avez eu mai 68, ce qui a révélé le mal-être de toute une génération, le mal-être aussi d'un monde ouvrier qui était en révolte. Donc ça veut dire que cette société-là, elle n'était pas si idéale que ça. Mais il est vrai qu'elle donnait comme ça un espoir, elle donnait un horizon qu'aujourd'hui on a perdu, c'est clair.
Pardon.
Et je pense qu'il y avait autre chose. Il y a eu une crise sociale, mais enfin qui n'est comparé par exemple à celle des Gilets jaunes, c'était pas grand chose. C'était surtout une crise vraiment de un tournant de civilisation avec l'avènement de revendications complètement inédites, enfin la liberté sexuelle, etc. Et je crois que les années Pompidou, si vous voulez, ça se situe à la jonction de ces années de très très encore marquées par beaucoup de traditionnalisme. Et c'était en même temps une période de libération. Oui. Donc, et ça, d'ailleurs, ça reflète la personnalité de Georges Pompidou, qui était un personnage complexe, paradoxal, avec très moderne par certains côtés, très traditionnaliste par d'autres côtés.
Mais justement, vous disiez, Jean Garrigue, qu'on sortait effectivement de mai 68, mais on n'est pas encore dans les années Giscard, qui sont celles de Simone Veil, de la libération de l'avortement, etc. Donc on a l'impression, sociétalement, d'être dans une espèce de parenthèse. Alors il peut se passer effectivement des choses. Oui. Économiquement, on est avant le choc pétrolier, comme le disait le monsieur tout à l'heure, Stéphane, on change de boulot comme on veut, il y a ce côté-là, mais qu'est-ce qui se passe sociétalement?
Mais on commence, souvenez-vous, c'est la pilule, la loi Neuwirth.
67.
Voilà, on est dans une société qui change. Mais 68 a été le révélateur de cette évolution, qui a commencé aux États-Unis, on le sait bien, mais en Allemagne, un peu partout dans le monde. Et il y a un monde qui est en train de changer, et ce qui est effectivement assez fascinant avec Georges Pompidou, c'est que il a la charnière de ça, c'est-à-dire qu'il est très enraciné, le terroir, le Cantal, le Montboudif, toute une tradition issue de la Troisième République, les instituteurs républicains de sa famille, de ses antécédents, et en même temps tourné vers une modernité incroyable, le TGV, l'Airbus, Ariane, etc., tout ça, et cette modernité aussi d'une société qui change, parce que moi, ce qui m'a toujours le plus ému et frappé dans le septennat avorté de Georges Pompidou, c'est cette conférence de presse en septembre 1969, l'affaire Gabriel Russier, cette jeune professeure qui s'est suicidée par amour, et la réflexion, la remarque de Georges Pompidou, qui est à la fois enraciné finalement dans une tradition poétique, il cite Éluard, et en même temps, bien, il comprend ce qui est en train de se passer.
Il comprend, on va le citer juste un instant, parce que je l'ai sorti forcément cette phrase de Paul Éluard, comprendre qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts qui sont morts pour être aimés. Et vous avez raison, il y a quelque chose de charnière dans cette affaire avec Georges Pompidou, et en même temps, il file la métaphore, il donne de la poésie, il ne dit pas franchement on se trompe, on s'est trompé dans cette histoire-là. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, Éric Roussel.
Oui, c'est là où on voit, c'était quelqu'un d'une grande pudeur, qui n'exprimait pas beaucoup ses sentiments.
C'est une question de pudeur ou une question de je vais pas trop loin quand même?
Non, je crois que c'était une question de pudeur, parce que ça reflète vraiment son tempérament. C'était quelqu'un qui se confiait très peu. Il n'était pas... faisait pas des confidences. En fait, de toute façon, c'est pas un métier qui s'y prête. Mais enfin, il
était. Oh, ça dépend pour qui. Depuis, on en a vu des confidences.
Oui, mais enfin, si vous voulez, oui. Oui, c'est vrai qu'on a changé d'époque. Mais enfin, si vous voulez, non, c'était pas dans son. Il avait une grande réserve, si vous voulez, personnelle. Et je pense que ce qu'il a dit à ce moment-là, c'était le reflet. Mais ce qui apparaît aussi, et ce qui explique au fond peut-être la sympathie qu'il suscite, c'est que d'abord c'était pas un itinéraire, contrairement à d'autres itinéraires, c'était pas un itinéraire prémédité.
Absolument, il n'était pas tracé pour être président.
Donc ça l'humanise, si vous voulez. Et puis il est à la jonction, comme le disait Jean Garrigue, de cette tradition de la Troisième République, dans ce qu'elle avait de meilleur, avec des hommes politiques comme Tardieu, Blum, enfin qui étaient des gens d'un certain niveau, avec une tradition et puis une culture aussi, et puis cette génération du gaullisme finalement, et puis de techniciens aussi. Pompidou n'était pas un technicien, il était plus polyvalent finalement, et je pense que c'est quelqu'un qui fait, enfin il y a une part d'humanité, si vous voulez, chez lui, qui était réelle et que les gens sentent et qui s'est exprimé notamment dans dans cette affaire.
Et quelque chose de plus accessible, non? Parce qu'après tout, juste avant lui, c'est De Gaulle, c'est quand même le grand personnage auquel la statue du commandeur, en gros. Oui. Donc il y avait quelque chose de plus accessible, peut-être.
Pompidou, c'est une sorte de gaullisme humanisé.
C'est ça.
Parce que sur les grands axes, il est quand même très très tout à fait dans le droit fil de De Gaulle.
Jean-Garrigue.
Oui, c'est l'héritier du général de Gaulle, et en même temps il casse la statue du commandeur. Il faut dire que les derniers mois entre la chute de Gaulle et même avant la chute de Gaulle, après mai 68, il y a eu une rupture entre les deux hommes qui venait de l'émergence justement de Georges Pompidou, mais aussi du fait que Pompidou avait une conception un peu différente, en tout cas différente de ce que devait être la société des années 70 et de ce que serait aussi un nouveau gaullisme, à visage peut-être plus humain et aussi à visage plus libéral.
Hugues, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute,
moi,
Hugues.
Je voudrais donner un témoignage un peu différent de l'éloge qu'on fait actuellement de Pompidou. Parce que moi, j'ai deux reproches à lui faire, essentiellement. C'est-à-dire que lui, il avait la théorie que c'était que les villes devaient s'adapter aux voitures. Ça serait une théorie actuellement complètement iconoclaste qui passerait pas. Mmh. Et d'ailleurs, cette théorie-là a abouti au fait qu'il a complètement ravagé les quais de la rive droite en faisant de ces quais une sorte d'autoroute pratiquement urbaine. Et je ne sais pas ce qui serait passé s'il était encore resté en vie. Est-ce qu'il n'aurait pas fait la même chose du côté de la rive gauche? Et le deuxième reproche que je fais, qui me reste actuellement, parce qu'on en parle tellement là, c'est du Brexit, c'est lui qui a levé le veto du général de Gaulle sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. On voit ce que ça a donné, et avec les conséquences que ça en fait, parce que la Grande-Bretagne, quoi qu'on dise, n'avait pas sa place dans le marché commun, et elle le prouve, elle l'a prouvé tout au long de son passage, disons, au sein de l'Union européenne.
Et ses 50 ans d'histoire.
Et on le voit avec le Brexit. Merci. Il y a un historien qui s'appelle Julian Jackson qui a dit que je dis bien un historien, pas un politicien, qui est un spécialiste de l'histoire politique française, qui a écrit, qui a dit lui-même que le Brexit donnait raison au général de Gaulle après coup.
Allez, merci beaucoup pour ces remarques, Hugues. Moi, je trouve ça toujours intéressant. C'est pour vous, Jean-Garrigue, l'historien, de réécrire l'histoire au regard de ce que nous savons maintenant.
Oui.
Alors, on parle du Brexit, mais c'est pareil pour la bagnole, en fait.
C'est tout le problème de l'anachronisme pour l'historien, parce que les gens des années 60, ils ne pensaient pas comme nous, ils n'avaient pas la même appréhension de l'écologie. Le premier candidat écologiste aux élections présidentielles, c'est René Dumont, c'est en 74. Donc vous voyez, tous ces problèmes-là n'émergeaient pas encore. Le problème de Georges Pompidou, c'est la croissance. Lui, ce qu'il voit, c'est que il y a des voitures, qu'on a besoin de la bagnole. Il adorait en plus la bagnole.
Et il le disait d'ailleurs, que voulez-vous, les Français adorent leur bagnole.
Voilà,
c'était vrai à l'époque.
Et donc, on adapte, mais sa pensée est plus complexe que ça. Il ne s'agit pas uniquement d'adapter la ville à la voiture. C'était quand même beaucoup plus compliqué, plus nuancé. C'est quand même lui qui a créé le ministère de l'Environnement en 1973, Robert Pujade. Donc c'est quand même pas quelqu'un qui était totalement à côté de ses préoccupations.
Éric Roussel.
Oui, puis je voudrais dire aussi une chose quand même. Si on considère par exemple l'histoire de Paris, il n'y a pas eu finalement de grands travaux pratiquement depuis Haussmann. Les grands travaux de la Troisième République, c'est la transformation du palais du Trocadéro en palais de Chaillot, c'est à peu près ça, tout. Ouais. Le grand palais, le petit palais.
Donc lui donne les quais.
Mais si vous voulez, il faut bien quand même qu'une ville vive. Alors après ça, 50 ans après, on se dit, c'était peut-être un peu exagéré, mais s'il n'y avait pas eu du tout de travaux où aujourd'hui, on a peut-être besoin, effectivement, de changer un peu le...
Sur la Grande-Bretagne dans le marché commun. Ouais. La Grande-Bretagne dans le marché commun, à l'époque, c'est l'horizon d'une ouverture, c'est l'horizon d'un projet européen qui est enthousiasmant, qui peut faire rêver. Alors, avec la méfiance, en sachant que l'Angleterre regarde toujours du côté de l'Atlantique, comme on le disait. Mais en même temps, il y avait cet espoir, nuancé d'ailleurs, parce qu'on sait que les négociations avec Edouard Heath, je crois, ont été un petit peu tendus entre Georges Pompidou et Edouard Heath.
Mais on se méprend sur le sens que Georges Pompidou a voulu donner à cette décision de laisser la Grande-Bretagne entrer dans le marché commun. En réalité, ça se situe dans le droit fil de Gaulle. C'est sûr que le général avait pris position contre l'entrée de la Grande-Bretagne parce qu'il redoutait surtout les liens de la Grande-Bretagne avec les États-Unis. Mais quand on lit dans les archives de Georges Pompidou le compte-rendu de l'entretien entre Pompidou et Heath, qui a formalisé en quelque sorte l'accord, c'est écrit noir sur blanc. Georges Pompidou dit à Edouard Heath, je lève l'interdit du général, mais à condition que vous stoppiez catégoriquement toute évolution vers une sorte de fédéralisme, d'intégration trop poussée. Donc c'était, au fond, c'était une sorte de moyen de rester dans l'épure qu'avait traité
d'Europe des nations.
C'est évident.
Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Patrick, on vous écoute.
Écoutez, moi je voudrais ne pas avoir trop de nostalgie parce que j'avais 23 ans en 1969. Et donc, à 23 ans, on est à la fois plein d'espoir, on est à l'aube de sa vie. Et quand on regarde cette vie 50 ans après, on peut avoir le sentiment que c'était une époque merveilleuse. Mais ce n'était pas une époque merveilleuse. Loin de là. Je vous rappellerai que, à cette époque-là, la contraception n'était pas encore en place. Que si on avait un chômage très faible, il n'était pas forcément facile d'entrer dans la vie professionnelle. Moi, j'étais étudiant à l'époque, mes parents ne me payaient pas mes études, il y avait donc un seul salaire à la maison pour faire bouillir la marmite, mon épouse travaillait, et pour les femmes, c'était pas forcément facile de travailler en 1969. Pour les hommes, ça l'était un peu plus, parce que la société était assez machiste, mais je voudrais vous rappeler que les vieux, à l'époque, qui avait 45 ans, on s'accrochait aux branches, et quand on arrivait, quand on avait 23 ou 25 ans dans une boîte, ben, fallait faire son trou. Et c'était pas simple. Mais ce qui était très différent d'aujourd'hui, parce que on sortait de l'après-guerre, moi j'ai connu les toilettes sur le palier, j'ai connu les salles de bain avec le chauffe-eau à gaz partagé à plusieurs à tour de rôle. C'était pas simple tout ça. Mais il y avait quelque chose, c'est qu'il y avait l'espoir que nous n'avons plus aujourd'hui. Barnard venait de greffer le premier cœur, on pensait qu'on allait vaincre le cancer, moi j'allais défiler contre la guerre du Vietnam et tous les gens de ma génération à peu près en faisaient autant, on pensait qu'il n'y aurait plus de guerre, on pensait qu'il n'y aurait plus de maladies, on pensait qu'il n'y aurait plus de famine, on pensait qu'il n'y aurait plus de cancer et que la vie serait faite de lendemains qui chantent.
Merci.
Et c'est ça qui est vraiment différent de l'époque d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Patrick pour ce témoignage. Éric Roussel, je vous voyais réagir. C'est ce que vous disiez au début, effectivement, bien sûr que c'est pas plus facile dans ces années-là que dans d'autres. Enfin, effectivement, le chômage de masse n'existait pas, mais c'était pas si simple non plus. Pour les femmes, c'était pas simple. On a Jocelyne qui nous rappelle quand même que dans les années Pompidou, les femmes devaient demander l'autorisation de leur mari pour avoir un chéquier quand elles travaillaient. Et c'est vrai, la contraception commençait à peine, bien sûr, mais...
Elle était quand même déjà entrée quand même dans les...
Ça fait deux ans qu'elle est... En 69, enfin, ça fait à peine deux ans qu'elle est...
Alors là, Pompidou n'y est pour rien.
Non, mais ça a mis du temps à rentrer dans les mœurs quand même. Oui, peu importe, l'idée, c'est ce que vous disiez vous aussi, il y avait quelque chose d'une confiance dans l'avenir qu'on a perdu, en fait.
Oui, c'est sûr. On avait le sentiment que le progrès était une donnée de base, en fait.
Il y avait et une évidence.
C'était un progrès, une évidence, voilà, c'est ça.
Jean-Garic.
Et une société plus jeune. C'est la société du post-baby-boom, une société qui se rajeunit. Et ce rajeunissement, il induit quoi ? Il induit précisément cet esprit d'aventure, cette espoir, cette espérance dans une société qui vieillit et qui est confrontée comme la nôtre depuis 40 ans à des problèmes de chômage, des problèmes d'inflation, etc., que sais-je, de perte de pouvoir d'achat pour certaines catégories, il est évident que l'espérance se recroqueville. Et le vieillissement de la population, là aussi, les populations jeunes, elles ont tout l'avenir devant elles. Elles croient en l'avenir. La sagesse qui vient avec l'âge, elle donne aussi une capacité à douter, une désillusion. Et c'est vrai que notre société d'aujourd'hui ne croit beaucoup moins à l'ascenseur social que celle des années 60.
Il y a eu tout à l'heure, dans le journal de 19h, un extrait de ce que Valéry Giscard d'Estaing a dit dans le colloque qui a eu lieu peu de temps avant. Il rappelait cette phrase de Pompidou qui disait « La France ne peut être gouvernée qu'au centre ». Du coup, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est s'il revenait maintenant, s'il sortait d'une boîte, à votre avis, il aurait sa carte où, en fait, Georges Pompidou ? Est-ce qu'il est encarté LR ? Est-ce qu'il est dans quelque chose qui ressemble à La République en marche ? Il a sa carte où ? Parce qu'on a l'impression que tous ces deux mouvances-là s'en réclament aujourd'hui. Lui, on le met où, en fait ?
Oui, mais enfin la mouvance, si vous voulez, qui est le canal historique.
Ouais.
il s'est réduit quand même à très peu de choses aujourd'hui. Donc je crois qu'on peut plus parler de. Ce sont des schémas qui sont plus pertinents. Il y a des gens qui peuvent se réclamer de Pompidou en disant voilà, c'est le canal historique, on est dans la tradition, mais. Je pense que c'est un peu comme De Gaulle, si vous voulez. Au fond, il n'y a plus de parti gaulliste, mais beaucoup de gens sont gaullistes. Donc ça a échappé. Il n'y a plus d'enjeu politique, politicien.
Si l'on prend le risque de l'anachronisme, on peut considérer qu'il s'inscrit dans une tradition, justement, de gaullisme humaniste, qui n'était pas le gaullisme de gauche, parce qu'il était très critiqué par les gaullistes de gauche. Une sensibilité donc humaniste, libérale. Peut-être ne se reconnaîtrait-il pas dans ce qu'a été la ligne, on va dire, d'un Laurent Wauquiez aux Républicains, pour voir où vous voulez nous
Et ceux qui s'en réclament, c'est ceux qui s'en réclament aujourd'hui.
Ceux qui s'en réclament, parce qu'il avait cet esprit de modernité, cette sensibilité sociale aussi qu'il avait, tout en étant un pur libéral. Donc voilà, il se situerait de fait au centre de l'échiquier d'aujourd'hui, dans la modération aussi, parce que c'était une idée qui était importante chez lui.
Il y a une chose qu'il faut insister, c'est que s'il a été élu président de la République, c'est à mon avis en grande partie en raison du rôle qu'il a joué en mai 68. C'est à ce moment-là que tout s'est joué. Et c'est alors que le général, était un homme de sa génération, de sa formation, il avait tendance à... Son premier réflexe, c'était quand même de régler les problèmes en fonction du maintien de l'ordre. Pompidou avait une... Et là, on retrouve l'homme de culture. Il avait des antennes. Par exemple, il avait organisé... C'est une anecdote qui est assez connue. Il organisait des soirées cinéma avec des amis à Matignon. Et 6 mois avant mai 68, on avait projeté le film de Godard, La Chinoise. C'était un peu un objet non identifié. Tous les amis de Pompidou avaient exprimé leur désarroi face à cette œuvre. Et Pompidou avait dit, oui, c'est quelque chose qu'on ne comprend peut-être pas très bien, mais qui annonce en tout cas quelque chose. Et donc, de sorte que quand ces événements sont arrivés, il a été l'un des seuls à...
Donc il avait du nez, en fait.
Oui, il avait des antennes.
Il avait le nez de son époque.
Voilà, d'abord, il a hiérarchisé les problèmes, et puis il a compris qu'il fallait surtout pas que le sang coule. Et il a eu la chance aussi d'avoir un préfet de police, Maurice Grimaud, qui n'était pas du tout gaulliste, d'ailleurs, que j'ai très bien connu, et qui venait du courant romandésiste. Mais il y a eu une conjonction heureuse, finalement, de ces deux personnages qui ont, heureusement, eu du poids dans le sens de la sagesse.
Dans les comparaisons qu'on s'est amusé à faire 50 ans après, il y a effectivement donc qui s'en réclame aujourd'hui, puis il y a cette élection en 69 où la gauche n'existe pas.
Oui.
En fait, un peu comme là, récemment, où la gauche a un mal considérable à exister. Oui. Là, pour le coup, on est un peu dans quelque chose de similaire au moment de cette élection-là.
C'est vrai, on a une gauche qui est dans une phase de transition à l'époque, qui est éclatée. Un Gaston Defferre, candidat officiel de la SFIO, qui ne dépasse pas les 5%, et quelque chose qui est en train de renaître à gauche, avec d'ailleurs à l'époque, à mon sens, beaucoup plus d'horizon et d'espérance que ne peut l'en avoir la gauche d'aujourd'hui. Et puis alors quand même, la grosse différence, c'est que Georges Pompidou, là, à l'époque, il est l'héritier véritablement d'un courant, tout simplement, il est le dauphin naturel, même si il a eu beaucoup de concurrents, des gens qui lui ont mis des bâtons dans les roues, notamment au moment de l'affaire Markovic, mais il est quand même l'héritier naturel d'une famille qui domine, qui est celle du gaullisme, à la différence d'Emmanuel Macron, qui s'est fait tout seul.
Absolument, et qui a créé sa propre famille.
Qui a créé sa propre famille.
Et qui n'a pas d'ancrage, parce qu'on parlait des différences et des comparaisons. Il y avait un ancrage politique, un ancrage dans le Cantal, un ancrage régional, territorial, qui n'existe pas chez le président aujourd'hui.
Oui, et puis la démarche politique n'est pas la même. Pompidou était partisan de majorité nette. C'est tout son conflit, d'ailleurs, avec Jacques Chaban-Delmas, quand Chaban était de Premier ministre. Alors qu'Emmanuel Macron, c'est une tentative de gouvernement au centre qui est beaucoup plus dans le sillage de Valéry Giscard d'Estaing.
Exactement.
Il y a cette phrase que j'ai repérée, qui m'a beaucoup intrigué, de Georges Pompidou, et qui disait « Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Je souhaiterais que les historiens n'aient pas trop de choses à dire sur mon mandat. » C'est quand même une drôle de... Ça dit aussi, effectivement, qu'il n'y avait pas d'ambition particulière, en fait, marquer l'histoire.
Si ce n'est cette ambition de laisser une France heureuse à son départ. Et d'ailleurs, quelque part, il n'a pas été bon prophète, parce que finalement, les historiens, notamment dans l'héritage d'Éric Roussel, mais de plus en plus, les historiens renouent avec les études sur cette période. Mais là où il a raison, c'est que c'est vrai que pendant peut-être 30-40 ans, très très peu de colloques, très très peu de livres ont été publiés sur sa période, justement parce qu'au fond, c'est une période de croissance, une période heureuse, on avait l'impression qu'il ne s'était pas passé grand-chose.
C'est comme si c'était une parenthèse, en fait, entre la fin du gaullisme, enfin la fin de Gaulle, et 74, le choc pétrolier, etc., Éric Roussel.
Non, il avait une forte personnalité, mais il avait peut-être un ego moins surdimensionné que certains hommes politiques d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y avait une chose vraiment qu'il, même si c'était pas exprimé toujours, qui l'obsédait du jour où il a été élu, c'est de se montrer en quelque sorte. Il savait qu'il succédait à De Gaulle, donc c'était quelque chose d'écrasant. Il était obsédé par l'idée d'être à la hauteur. Voilà, c'était ça son. Et au fond, les conditions dans lesquelles il avait succédé à De Gaulle n'avaient pas été agréables pour lui, parce que de son côté, il y avait beaucoup d'admiration pour De Gaulle, dont il était devenu le collaborateur le plus proche, et il y avait une grande part d'affectivité réelle. Et il s'est aperçu, au moment de l'affaire Markovic, que De Gaulle, c'était difficile d'être ami avec lui. C'était un géant. Un géant n'a pas beaucoup d'amis. Et donc, ça a été douloureux pour lui, finalement, cette affaire Markovic qui l'a conduit à précipiter quand même un peu les choses, ça. Et donc,
il trouvait que De Gaulle ne l'avait pas assez défendu.
Je pense qu'avec la maladie, si vous voulez, il a été obsédé par ça, et avec l'idée qu'il fallait qu'il revienne, au fond, à une sorte de gaullisme. On voit ça dans les dernières années. Il revient quand même à quelque chose qui est plus classique.
Mais du coup, on en reparle, on regarde ces années-là, mais qu'est-ce qu'on met dans l'héritage? L'héritage, c'est quoi, en fait? Est-ce qu'il y a un héritage Pompidou, au fond?
Il y a quand même un héritage, d'abord, dans cette sensibilité humaniste qu'il représentait. C'est pas dans tous les pays que vous trouvez comme ça un président de la République ou un chef d'État capable de citer Éluard. C'est quelque chose qui est assez français et qui s'est prolongé ensuite avec Mitterrand, avec Emmanuel Macron aujourd'hui, voire même avec Jacques Chirac, qui dissimulait sous une apparence, un peu frustre, beaucoup de culture. Donc c'est aussi une sensibilité très française.
Une culture très à part, cela dit, parce qu'une culture très classique chez Pompidou, très classique chez Mitterrand, très classique aussi chez Emmanuel Macron. Chirac avait autre chose, en fait.
Mais avec une volonté de se raccorder en permanence, et c'était le cas naturellement de Georges Pompidou, au terroir, à la France profonde, à cet amour de la France. Et l'on voit bien d'ailleurs à quel point Emmanuel Macron tente justement aujourd'hui lui aussi, de s'accrocher à cette idée qui est beaucoup moins évidente, parce que on le voit comme un président des villes, un président urbain, un président des élites, et on voit que ça manque par rapport à ce que représentait Georges Pompidou.
Éric Roussel.
Oui, je voudrais insister sur quelque chose qui est assez peu connu. Georges Pompidou, après mai 68, a écrit un livre qui s'appelle Le Nœud Gordien, qui a été publié tout de suite après sa mort, et qui est tombé un peu à plat, parce que il était justement un peu au purgatoire. Et ce livre vient d'être réédité par mes soins, donc j'ai fait chez Perrin. Et c'est un livre, à mon avis, très intéressant, notamment par sa conclusion, dans laquelle Georges Pompidou exprime une inquiétude née de la, ce qu'il avait perçu en mai 68, de l'évolution de la société. Mmh. Il craignait, au fond, que toutes ces forces de libération créent un certain désordre et qu'ils ne puissent plus être, au fond, assumés dans un ordre démocratique. Mmh. Et il a cette formule qui est quand même assez prémonitoire. Il écrit ça en 68. Le fascisme n'est pas si improbable. Il est même plus près de nous que le totalitarisme communiste. Et on voit bien, enfin, on n'est pas, le fascisme, heureusement, n'est pas là, mais enfin, on sait bien que dans les sociétés occidentales, un peu partout dans le monde d'ailleurs, il y a quand même une tentation autoritaire qui s'exprime. Pompidou avait l'inquiétude, finalement, d'exprimer l'inquiétude de voir ce problème, enfin, ce qu'il appelait le no gordien, réglé de façon quand même libérale.
Jean Garrigue, avant de retourner au standard.
Juste pour dire qu'il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier dans la présidence de Georges Pompidou, c'est son premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, et quelque chose qui, à mon avis, est un marqueur justement de la modernité de ce moment, qui est le discours de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas. Mmh. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Relisez ce discours du 16 septembre 1969, qui a d'ailleurs beaucoup mécontenté Georges Pompidou parce qu'il le considérait comme un discours de président de la République et qui ne partageait pas toutes les conclusions de ce discours. Mais c'est un discours qui pose quasiment toutes les questions qui se posent aujourd'hui à la société française. Il faut l'avoir en tête, parce qu'il vous montre aussi comment, dans cette époque-là, justement, on commence à penser l'avenir, le futur.
Allez-y, on va rejoindre Olivier dans un instant.
Je crois, si vous voulez, que je crois que c'est très dommage qu'il y ait eu cette incompréhension entre Georges Pompidou et Jacques Chaban-Delmas, parce qu'effectivement, ce discours ouvrait des perspectives sur le fond, si vous voulez. Pompidou n'était pas complètement hostile à un certain nombre de mesures, mais c'était aussi. Il a eu l'impression. Bon, Chaban lui a communiqué le discours vraiment qu'à sa demande à la dernière minute. Donc, et si Chaban avait lu le No Gordien, mais il l'avait pas lu puisque ça n'avait pas été publié, il aurait vu que Pompidou, l'idée de Pompidou, c'était de surtout de veiller à ce que le pouvoir reste à l'Élysée, alors qu'il y avait du côté de Chaban et surtout du côté de certains de ses conseillers la tentation quand même un petit peu de rééquilibrer le régime de ce côté.
Olivier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir patienté, Olivier. On vous écoute.
Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Donc, moi, je reprends un petit peu déjà de prendre mon intervention. Je rejoins un petit peu le précédent interlocuteur qui était intervenu au standard, mais un peu plus âgé que moi. Moi, j'avais 5 ans dans les années 70, donc j'étais tout petit. Le souvenir que j'en ai, il y avait beaucoup plus d'insouciance en France, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de porosité, me semble-t-il, entre les différents vecteurs de la société, différentes couches sociales, je sais pas trop comment dire. Nous, on était dans un milieu très modeste, mais on avait l'impression comme le disait le précédent interlocuteur, on a incontestablement aujourd'hui un confort beaucoup plus plus grand, ça a été dit aussi par vous. On a un confort incontestablement meilleur que ce qu'on avait à l'époque, mais on avait la joie et l'insouciance qu'on a peut-être un peu moins aujourd'hui. Et en ce sens, il me semble qu'il y avait des valeurs communes partagées par tous. Enfin, il y avait un ordre des choses qui était, c'était comme ça, quoi. Hein. Et c'était peut-être plus facile d'incarner une France à cette époque qu'aujourd'hui, où on a mis l'accent sur la compétition, concurrence. Il me semble qu'il y a un petit peu ces questions-là, plus de confort, mais plus d'incertitude aussi. C'est peut-être le prix du confort et aussi de l'ouverture au monde, parce que on a accès aujourd'hui à une information et un recul sur le fonctionnement du monde, c'est peut-être et aussi sur les problèmes d'écologie dont vous avez aussi discuté, sont liés au fait qu'on a plus d'informations, plus d'ouverture, qui rendent les choses peut-être plus graves.
Merci, pardon Olivier.
À l'époque.
Pardon de vous interrompre, merci. Olivier, pour qu'on puisse prendre d'autres appels. Puis on vous entend un peu lointain, mais on a entendu ce que vous disiez. Plus d'insouciance, plus de simplicité, plus de joie. Il y a quelque chose, Jean Garrigue, qui m'intéresse aussi dans ce dont Olivier vient de témoigner. C'était plus facile d'incarner une France.
Oui, Eh bien, ça rejoint effectivement la thématique de mon dernier livre, et c'est exactement ce que j'ai constaté, c'est que on voit très bien qu'encore dans les années 60, il y a une France plus cohérente autour de valeurs simples, mais bon, héritées d'ailleurs de la troisième République, plus d'insouciance parce que la société va mieux, parce que l'ascenseur social fonctionne mieux. C'est vrai que le pouvoir d'achat à cette époque, le niveau de vie, il est beaucoup plus élevé aujourd'hui en réalité, mais c'est dans cette époque-là on a l'impression que tout va aller bien, que tout est possible, et aujourd'hui on voit bien de quelle manière notre société s'est totalement émiettée, le corps social s'est fragmenté. On voit bien la difficulté à faire classe sociale aujourd'hui, des intérêts disparates un peu partout, des intérêts qui ne se reconnaissent plus dans les mêmes valeurs, une société de l'individu surindividualisée. C'est à l'époque il y avait encore ce sentiment de faire communauté, de faire France, et effectivement la capacité d'incarnation d'un Georges Pompidou, vous le disiez tout à l'heure, qui jusqu'au bout de son mandat dépasse les
55 dans ces eaux-là. Sa main,
c'est quelque chose dont on peut penser que ça ne peut pas se retrouver aujourd'hui.
Éric Roussel, sur l'incarnation, ce qui faisait France à cette période par rapport à aujourd'hui.
C'était plus facile parce que c'était une société qui était plus stable et plus, j'allais dire, plus fermée aussi. Le rapport au monde n'était pas du tout le même. Là, on est dans la mondialisation a quand même changé énormément de choses. Donc, ça crée cette impression de. Alors pour les gens effectivement qui sont armés pour affronter cette situation, c'est une chance. Mais il y a beaucoup de gens qui ressentent ça comme un danger. Et c'est vrai que ça n'existait pas à l'époque. On ne vivait pas dans la hantise de voir. C'était une société beaucoup plus stable. Et d'autant plus qu'on était quand même sortis. C'était la première fois. Il y a une chose qu'il faut souligner quand même. On était sortis de la Première Guerre mondiale, et puis de la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. C'était la première fois, finalement, qu'on vivait. Et c'est peut-être ça aussi la raison pour laquelle on perçoit ces années-là comme quelque chose. La France commençait à respirer. Enfin, à partir de la fin de la guerre d'Algérie, ça a quand même été une période, d'ailleurs, mai 68, même s'il y a eu une crise sociale, c'était quand même une aspiration au bonheur.
Pierrick, bonsoir.
Bonsoir,
on vous écoute ?
Oui, alors moi j'étais, c'est un témoignage, puisque j'étais le soir de la mort de Georges Pompidou, quai de Béthune, et j'étais à l'époque vice-président de la jeunesse et étudiante chrétienne, et j'étais d'ailleurs quai de Béthune avec le président, et je pense que quand on nous a annoncé la mort et qu'il a fallu évacuer le quai, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'importance de la fonction du président de la République, et que depuis ce moment-là, qui est un moment d'émotion surprenante, parce qu'on était, j'étais plutôt dans les rues de Paris, battant les rues de papier contre la politique du président et de son gouvernement, j'ai toujours respecté la fonction présidentielle, quel que soit le président, même si je n'avais pas voté pour lui, et j'ai eu un grand respect. Et je pense que c'était un moment d'émotion et, j'allais dire, d'enracinement de républicains et citoyens.
Merci beaucoup.
Voilà, j'en garde, et depuis je n'ai jamais dérogé à ça. À ce profond respect du président de la République et de l'institution et de la participation républicaine.
Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Pierrick, pour ce témoignage. Éric Roussel, en un mot, je voulais réagir.
Oui, ce que je voulais dire, c'est sur la fin de la vie de Georges Pompidou, cette maladie. Ça aussi, ça témoigne de l'évolution de la société aujourd'hui. Un président qui serait dans cet état-là, mais la presse déchaînerait.
Évidemment.
Et en ces années-là, quand on relit la presse de l'époque, on voit au contraire qu'elle a été d'une très grande réserve. Bon, naturellement, on savait très bien qu'il était malade.
Ça se voyait.
Oui, ça se voyait. Mais il y a eu un très grand respect, finalement, de sa souffrance.
Jean Garrigue.
Le général de Gaulle avait créé une présidence d'autorité, de surplomb, de solennité, que finalement Georges Pompidou, à sa manière, a prolongé. Et on voit très bien que tout ça, peu à peu, s'est étiolé avec le temps, que nos présidents ont perdu cette capacité de respect pour des tas de raisons, de leur fait, parce qu'ils ont trop utilisé la communication, la surmédiatisation, parce qu'ils se sont laissés aller à dire des casse-toi pauvre con ou d'autres, et puis aussi parce qu'on est dans une société de surmédiatisation qui vous rapproche tellement président, du président du quotidien, j'allais dire un président, que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir cette capacité à respecter, à idolâtrer, j'allais dire, celui qui est aux commandes.
J'ai pas le temps de prendre la question d'Annie, mais je vais la prendre dans ma voix du coup. Pardon Annie, elle nous dit, on ne parle pas du tout de sa femme qui a eu énormément d'influence sur le versant culturel de Pompidou, donc sa femme Claude Pompidou. Michel nous dit la même chose, y a-t-il eu une véritable influence culturelle grâce à Madame Pompidou?
C'est clair qu'elle l'a poussée en tout cas dans ce sens, c'est un goût partagé pour les artistes, les Alechansky, les Paulin, etc., qui ont décoré l'Élysée, Pierre Boulez, qui était un grand ami les Renaud Barrault, c'était une femme de culture et un homme de culture qui s'était retrouvé, et un couple fusionnel, couple aussi fusionnel à l'Élysée.
Allez, on me fait des grands signes de l'autre côté de la vitre. Merci beaucoup, merci de votre participation, merci de vos nombreuses questions, portez-vous bien.